France Inter, le 18-20.
Et vous faites partie peut-être de ces gens qui doivent faire 20 km pour trouver un médecin généraliste. Le médecin qui était là a fermé son cabinet il y a maintenant quelques années sûrement et personne n'a voulu reprendre. Dans la ville à côté, en revanche, ils sont trois dans la même rue. Est-ce bien raisonnable? Lutter contre les déserts médicaux, c'est un peu le serpent de mer de tout ministre de la Santé. La solution coercitive, apparemment personne n'en veut, mais on en parlera quand même. Alors quoi? Des maisons de santé peut-être démultipliées pour éviter un jeune médecin de se retrouver tout seul dans un village perdu qui n'est pas le sien? Une télémédecine bien faite, financée car on y vient, et ça peut marcher chez nous comme ça marche déjà ailleurs. Est-ce que c'est pas par manque de formation aussi, d'exemple, que les jeunes médecins ne veulent pas ouvrir de cabinet, ne veulent pas tenter le hors la ville? Est-ce que cette affaire de numerus clausus, on l'ouvre, on le ferme? Vous avez un médecin, donc forcément vous avez un avis, une question. Vous êtes jeune médecin ou encore étudiant, vous avez sûrement de quoi dire aussi, et on vous attend.
Fabienne Saint-Es. Le téléphone sonne.
Jeune ou moins jeune, d'ailleurs, ça marche aussi. Bonsoir Renaud.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute. C'est vous le premier.
Je vous remercie infiniment de me donner la parole. Ce soir, je veux témoigner. Ça fait 25 ans que je vis à la campagne. Je suis venu de Bordeaux pour m'installer en Haute-Normandie, dans un désert médical, qu'il était déjà, mais qui s'est aggravé. Et je souhaite poser deux questions, à savoir jusqu'à quand, vu la gravité de la situation sur les territoires ruraux, jusqu'à quand va-t-on bloquer le numerus clausus sans tenir compte des modifications sociologiques des professionnels de santé, à savoir la féminisation, le changement du temps de travail, la spécialisation extrême de beaucoup de branches dentaires et médicales en général.
Vous êtes dentiste, hein, Renaud, pardon de vous interrompre.
Voilà, tout
d'accord,
à fait, okay. Je suis chirurgien dentiste.
D'accord.
Mon quotidien, c'est des rendez-vous à 4 ou 6 mois, c'est des urgences que je peine à pourvoir, à être disponible, parce que quand on a 30 personnes dans une journée, la 31e et la 32e, c'est très très dur de les prendre, et puis il y a une sorte d'usure, quoi, qui fait que au bout d'un moment, je me dis, est-ce que je conseillerais même à un jeune praticien de venir, entre guillemets, passez-moi l'expression, s'enterrer en campagne, puisqu'on ne peut plus revendre les cabinets médicaux une fois qu'on est installé en campagne, on est coincé, on ne peut plus évoluer professionnellement parce que ou très difficilement parce que les formations que l'on peut faire en formation continue ne correspondent pas à notre exercice quotidien, qui est un exercice simple, qui rend service, qui soigne, mais qui n'est pas très sophistiqué.
Merci beaucoup Renaud, c'est une très belle entrée en matière. Juste une curiosité, vous êtes installé parce que vous vouliez travailler dans un endroit qui était un désert médical à l'époque. Est-ce que c'était une vraie volonté de votre part de vous installer là?
Très sincèrement, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de la faculté de Bordeaux. Je n'étais pas du milieu médical. Il fallait que je travaille, donc je suis allé dans un endroit tout simplement. Et puis, par le fait du hasard, j'ai atterri en Normandie parce que cette région était belle, il y a un littoral. Mais aujourd'hui, je me retrouve à construire ma vie de famille et je me rends compte peut-être que j'aurais dû regarder mieux parce que la campagne, c'est moins de services publics aujourd'hui. En 25 ans après, les services publics ont disparu, les transports ont disparu. J'élève mes enfants, je dois leur payer des études dans une ville à Paris. Et en fait, finalement, on se retrouve, je ne parle même pas de l'aspect culturel, pour sortir, pour organiser sa vie. Au bout de 25 ans, vous voyez, ce n'est pas le temps, le fait d'être venu de Bordeaux en Normandie qui me pèse, mais c'est la vie en milieu rural. C'est quand on n'y est pas né, c'est quelque chose. Le pays de Caux est magnifique. C'est une très, très belle région, mais c'est une région qui souffre économiquement. C'est une région qui manque d'infrastructures. Et il y a une sensation un peu d'enfermement, vraiment, au niveau du territoire.
On entend l'enfermement, une pointe d'abandon aussi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont résumées dans votre témoignage et vos questions. Renaud, merci beaucoup. Pour vous répondre et pour dialoguer avec nous tout au long de ce téléphone sonne, Isabelle Mincion est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire UDI de la Ville-aux-Clercs, c'est dans le Loir-et-Cher. Vous êtes aussi coprésidente de la commission santé de l'Association des maires de France. Et puis Yannick Schmitt est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes jeune médecin généraliste, vous êtes président du regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Beaucoup de choses, je vous voyais réagir, Isabelle Mincion notamment, beaucoup de choses dans ce que dit Renaud, notamment dans, il y a un côté condamné, en fait, une fois installé dans ce que nous dit Renaud. Et on entend ce qu'il dit aussi sur le fait que ça pèse au bout d'un moment, parfois, chez certains en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est une situation que je reconnais dans beaucoup, malheureusement, de territoires en France. Moi, la question que je voulais lui poser, c'était est-ce qu'il exerce seul ou est-ce qu'il a cherché à se regrouper avec des collègues ou avec des médecins déjà installés ?
Renaud, vous êtes tout seul ou vous avez des collègues ?
Alors, je me suis regroupé. On a été même dans un cabinet jusqu'à 4. Et puis le cabinet a explosé suite à des pressions, à des tensions internes. Mais finalement aujourd'hui, je suis toujours associé avec une collègue. On s'entend très très bien, mais finalement on ne veut plus grossir parce que, si vous voulez, à mon échelle de libéral, je peux pas construire un hôpital pour la dent, vous voyez, et parce que grossir, c'est augmenter tout un tas de questions salariales, ça me détournerait de ma tâche principale, quoi. Et on l'a vécu déjà, en fait, plus ça grossit, plus on complique et plus finalement on simplifie pas toujours l'exercice, vous voyez.
Isabelle Mincion, vous avez, merci Renaud, vous avez votre réponse, Isabelle Mincion. Vous pensez que quand on se regroupe, ça aide?
Oui, le regroupement, mais moi je pensais plutôt à un regroupement avec d'autres professionnels de santé, tels qu'on le pratique dans les maisons de santé pluridisciplinaires. C'est quand même aussi plus facile. Moi j'ai beaucoup d'exemples qui l'ont fait depuis très longtemps, sans attendre les fonds publics, hein, sans attendre que les collectivités s'en emparent. Mais il me semble que c'est un dialogue aussi à instaurer avec tous vos collègues, qu'ils soient finalement médecins ou les professions paramédicales, peut-être, et puis les collectivités.
Maisons de santé pluridisciplinaires, Yannick Schmitt, effectivement, on va les multiplier quasiment par deux, autant que je sache. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que les jeunes médecins, notamment, s'y intéressent un peu plus? Est-ce que ça leur fait moins peur quand on rentre dans une maison de santé?
C'est évident qu'aujourd'hui, les jeunes médecins généralistes envisagent un exercice regroupé et un exercice pluriprofessionnel. Et donc, l'archétype de tout ça, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle. Mais malheureusement, il suffit pas de vouloir augmenter le nombre de maisons de santé et de le doubler. Ça coûte pas cher de le dire quand on est politique, parce qu'il faut quand même des volontés de terrain, des gens sur le terrain qui sont prêts à porter un projet de santé et à construire une maison de santé.
Ça veut dire qu'on a du mal à trouver des volontaires pour faire ça, très concrètement.
Oui. Et ben, ça veut dire qu'il faut être motivé pour le faire, parce qu'on nous demande quand même un certain nombre de démarches et de réflexions pour que ça ait un intérêt et qu'on prenne vraiment en compte les besoins de la population lorsqu'on se lance dans une maison de santé. Donc c'est un vrai travail.
Il y avait autre chose dans la question de Renaud, et allons-y, puisque ça reviendra forcément, le fameux numerus clausus à débloquer. On a l'impression que c'est un peu le sésame. Est-ce que le numerus clausus, Isabelle Mincion, c'est vraiment un sésame ?
Alors, moi, je suis dans une région qui est la région, malheureusement, qui a la plus faible démographie médicale. Et il est vrai qu'il a déjà été augmenté, que l'on demande à ce qu'il soit encore relâché et à nouveau augmenté. Mais il faut 10 ans pour former un médecin.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, parce que ça paraît être une réponse simple, mais en réalité, c'est pour dans 10 ans que ça tiendra, Yannick Schmitt.
C'est exactement ça. Il faut bien dire les choses pour qu'on comprenne les termes du débat. Aujourd'hui, on perd 1000 médecins généralistes par an. Et ça va durer jusqu'en 2025, d'après les estimations. Donc ça veut dire que la pénurie va se creuser et que du coup il n'y a pas assez de médecins qui arrivent sur le marché, si j'ose dire, pour combler ce départ à la retraite.
Mais en revanche, le numerus clausus qu'on a ouvert récemment, dans 10 ans, donc enfin il y a quelques années maintenant, finira par porter ses prix. Donc vers 2020-2025, il y aura subitement plus de médecins, ou pas?
C'est là où j'allais en venir. C'est que entre le moment où j'ai débuté ma formation il y a 15 ans et aujourd'hui, le numerus clausus a doublé. Sauf que, bah, comme le disait ma collègue, il faut 10-12 ans pour former un médecin, et donc là on paye les pots cassés des numerus clausus qui n'ont pas été augmentés il y a 15, 20, 30 ans, mais par contre, pour que ça porte ses fruits, il va à nouveau falloir attendre quelques années. Et on estime effectivement qu'en 2025, le nombre de médecins va réaugmenter, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de médecins forcément qui seront sur le territoire.
Et ni qui seront effectivement installés dans les zones où on en a le plus besoin. Philippe, vous nous appelez de Haute-Savoie, bonsoir et soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. Mon témoignage, voilà, juste pour dire, j'avais un médecin généraliste que j'ai eu pendant 20 ans, médecin de famille, qui a dû arrêter de pratiquer, prendre sa retraite, etc. Et à l'époque, il m'a expliqué, pour ma dernière visite médicale, il m'a donné mon dossier qui était encore papier, qui n'était pas sur ordinateur. Il s'est mis à pleurer. Et il m'a expliqué, voilà, je ne trouve personne pour reprendre la suite. Et où je veux aussi expliquer, c'est qu'il donnait sa patientèle. C'est-à-dire que je crois que la patientèle, vos intervenants peut-être pourront le confirmer, mais normalement ça se monnaie.
Oui, ça se vend, bien sûr.
Voilà, ça se vend. Là, il donnait sa patientèle, il laissait à disposition le cabinet gratuitement, c'est-à-dire sans loyer, et il n'a trouvé personne. Il a eu deux contacts de l'étranger, en Pologne, je crois, il m'avait expliqué, etc. Et sans aucun, j'ai aucun problème avec ça, hein, c'est pas le problème, mais qui parlait pas très bien le français, etc. Et j'ai vu ce médecin de plus de 68 ans me donner mon dossier en pleurant. Et c'était un médecin qui me suivait, moi et ma famille, mes enfants, ma femme, depuis 20 ans. Et c'est lamentable.
Et c'est
lamentable. Et je vis dans une région où je suis pas dans une zone, parce que justement, quand on parle des zones un petit peu perdues dans la campagne, etc., j'habite à Douvaine, je suis à 15 minutes de Genève, donc c'est quand même une région où il y a beaucoup de frontaliers, il y a de l'argent, il y a de l'argent au niveau des communes, etc., mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai un nouveau médecin maintenant, pour un rendez-vous, c'est 3 semaines, 1 mois d'attente. Donc, vous avez la grippe, vous avez quoi que ce soit, c'est bon, c'est pas la peine.
Merci Philippe pour votre témoignage. On a bien compris, Isabelle Mention, une situation effectivement que vous connaissez. Et, j'avais presque envie de dire, c'est terrible à dire, tellement classique en fait.
Elle est venue,
personne
elle est classique.
Pour reprendre les patients.
Vous savez, je crois que c'était en 2006 que moi j'ai vu un maire pleurer en expliquant que son médecin avait mis la clé sous la porte 8 jours avant et qu'il était parti à la retraite sans successeur et sans rien dire parce qu'il avait honte d'être parti ainsi. Voilà, ce sont des situations que l'on connaît. Nous tirons la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Moi, je veux dire que ce soit les médecins ou les maires l'ont fait déjà depuis longtemps. On a essayé d'imaginer depuis très longtemps des solutions pour aider justement la profession médicale, mais ce ne sont pas ni au maire, ni au président de communauté de communes, ni de construire et de le projet médical ne peut être qu'un projet médical des médecins et des professionnels. Nous l'accompagnons, c'est tout ce que nous pouvons faire.
Est-ce qu'il y a la raison pour laquelle on voit arriver, mais ça a été votre cas chez vous, je crois, vous m'arrêterez si je me trompe, des médecins espagnols, des médecins roumains.
C'est le cas.
Vous en avez eu, vous ne les avez plus, ça veut dire que c'est compliqué de créer une patientèle avec des médecins qui arrivent d'ailleurs. Comment ça se passe, hein?
Alors, c'est l'histoire d'une maison médicale qui a été créée à l'origine par des médecins avec la communauté de communes et contre l'avis, à l'époque, c'était la DRAS, c'était pas encore les ARS. Et il se trouve que pour un hasard malheureux, eh bien, il y a des médecins partis à la retraite, des médecins décédés. Et donc, il n'y avait plus qu'un médecin, d'ailleurs, qui a fini par décéder de burn-out, hein, je le dis. Et donc, il n'y avait plus qu'un mi-temps de disponible.
Décédé de burn-out?
Oui, absolument, en allant chercher des plantes au supermarché. Non, mais je vous assure, c'est terrible, c'était quelqu'un qui était absolument formidable. Et vous savez, les chasseurs de têtes sont arrivés. Donc, des Roumains sont arrivés et sont repartis au bout de 3 ans, lorsqu'ils ont épuisé, finalement, toutes les aides possibles, inimaginables. Et là, fort heureusement, ce sont deux médecins espagnols qui sont arrivés, mais par eux-mêmes. Ils ont souhaité s'installer en milieu rural. Et comme dans le village d'à côté, enfin 20 km, il y a aussi un départ de médecin à la retraite, l'un des deux va aller assurer un mi-temps supplémentaire sur cette zone-là. Donc, mais les temps d'attente sont ce que décrit monsieur.
Yannick Schmitt, sur les médecins étrangers qui viennent au final parce que seule la solution est là. Est-ce que vous, de votre côté, on dit pourquoi pas, ou on se dit c'est quand même terrible d'en arriver là, enfin même si ces gens sont des médecins, des vrais médecins, hein. Est-ce qu'on dit pourquoi pas ou pas?
Ah oui, pourquoi pas, s'ils viennent pour les bonnes raisons. Là, l'exemple des médecins espagnols semble tout à fait légitime et je pense qu'ils ont eu raison de s'installer là où ils se sont installés. Par contre, recourir à des chasseurs de tête, c'est là où on met en garde nos élus locaux. C'est quand même le meilleur moyen de perdre beaucoup d'argent et de pas avoir de solution pérenne pour sa commune. Aujourd'hui, des médecins qui viennent pour prendre les primes et repartir au bout d'un ou deux ans, c'est des histoires très fréquentes chez les maires et je pense que beaucoup se sont fait avoir comme ça.
Ce sont des primes importantes ou pas?
Oui, ce sont des primes importantes. Bon, il y a déjà les primes de l'ARS. Généralement, les communautés de communes offrent le logement gratuit. Enfin, voilà, il y a toute la panoplie que l'on offre, finalement, pour pouvoir donner un peu d'attractivité. Et puis, bien sûr, les chasseurs de tête qui n'oublient pas de se faire payer.
Merci beaucoup. Xavier nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Xavier.
Premièrement, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos émissions.
Merci Xavier.
Et en fait, voilà, moi c'est mon témoignage. Effectivement, j'habite dans un milieu rurale. Et effectivement, bon, bah, moi, il y a deux médecins aujourd'hui. L'un va prendre sa retraite et l'autre se dit, bah, tout simplement, moi, je serais pas capable d'assumer ma clientèle, je vais arrêter aussi. Je serais pas capable d'assumer tout le monde. Et c'est vrai que là, déjà aujourd'hui, il est au bord de la rupture. Mmh. Et en fait, moi, ma question, c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, faire comme un petit peu l'éducation nationale fait, imposer un petit peu le choix, ou en tout cas, où vont réaliser ben, leurs soins les médecins, mais tout simplement derrière, en mettant, entre guillemets, une carotte, en disant tout simplement, ben, aux jeunes médecins, on finance vos études, on vous aide à réaliser vos études, et en contrepartie, pendant 5 à 10 ans, ben, vous allez travailler à tel endroit, etc., et après, vous pourrez faire ce que vous désirez, mais dans, voilà, en contrepartie d'un financement de vos études, ben, vous allez...
Allez, là où on a besoin, là on a besoin d'un médecin. C'est une proposition, Xavier, il y a beaucoup de questions dans ce sens. Je voudrais qu'on écoute Sophie qui nous appelle de l'Ardèche. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir. Donc je suis pharmacien en Ardèche, en milieu rural, dans une commune de moins de 1000 habitants. Voilà, je précise aussi, puisque ça a été évoqué, qu'on est en construction d'une maison de santé pour recruter dans plusieurs territoires. Mm-hmm. Par contre, je rejoins monsieur, je pense que il y aurait une logique. Aujourd'hui, la profession de pharmacien est réglementée. On a un nombre de pharmacies par habitant, pour de la première à 2500 habitants. On pourrait très bien imaginer que depuis quelques années, on ait fixé un peu des quotas pour les médecins généralistes, les ostéomorphes, les cardio, et peut-être les kinés, les infirmières, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de raison. Ça permettrait de réguler le flot de médecins sur et le flot d'offres médicales au sens large sur le territoire. Et là où je rejoins monsieur, c'est qu'on ne m'a pas payé des études, monsieur, et malgré tout, je m'installe là où il y a de la place. Et je crois qu'il faut quand même rappeler, c'est important, que les études aujourd'hui de pharmaciens ou de médecins, même si elles sont longues, sont quand même abordables quasiment par n'importe quel individu sur le territoire, parce que le coût est quand même supporté en partie par l'imposition des Français, et que nos salaires pharmaciens, et alors je vais faire hurler, tant pis, hein, est supporté aussi par l'impôt des Français, parce que c'est le système de santé qui nous paye, et je crois qu'il y a une légitimité à un moment donné de se réapproprier les choses et de demander, bah, en contrepartie, de répondre à la demande. Je crois que c'est pas trop demandé.
Voilà. Alors, merci beaucoup Sophie, je voudrais vraiment qu'on réagisse à la fois à ce que dit Xavier et ce que dit Sophie. On parle de mesures qui sont, on n'est pas tout à fait dans la mesure coercitive qui est obligerait un médecin à s'installer dans un lieu donné puisqu'on manque de personnel. Mais proposition numéro un, celle de Xavier, après tout, les professeurs le font. Leur première affectation, ils ne la choisissent pas. Et donc là, contrepartie financière, contrepartie pour aider les études, en échange de quoi vous vous installez pendant 5 ans dans un désert médical. Est-ce que c'est complètement inenvisageable, Yannick Schmitt?
Alors c'est profondément méconnaître les études de médecine. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, pour revenir sur la proposition de Xavier, il existe déjà un dispositif un peu sur le mode des hauts fonctionnaires où on va payer pendant les études une bourse d'études et en contrepartie de quoi, une fois formé, le médecin va s'installer sur une durée équivalente dans une zone sous-dotée. Ça existe déjà, ça s'appelle un contrat de service public. Il y en a 1800 je crois qui sont signés aujourd'hui, donc ça existe et ça se fait. Bon, première chose. Deuxième chose, sur le service rendu, entre guillemets, ou le service à rendre à la collectivité. Aujourd'hui, lorsqu'un étudiant fait ses études de médecine, il va consacrer 3 ans en médecine générale pour l'internat, dans lesquels il va travailler pour une misère dans les hôpitaux dans lesquels il va être affecté. Donc, je crois que demander un autre effort supplémentaire, encore 3 ans de plus, à des étudiants qui ont été déjà très mal considérés pendant 3 ans durant leur formation, c'est vraiment insupportable à entendre. Je le dis d'autant plus que j'entends la douleur et la tristesse dans la voix de vos auditeurs, mais il faut bien comprendre que la démographie médicale est telle qu'aujourd'hui il n'y a pas de zone surdotée en France dans médecins généralistes, ou alors il faut me le dire, mais moi je n'en connais pas. Et il n'y a aucun élu qui va vous dire, ah bah oui, là, dans ma commune, il y a trop de médecins généralistes.
Et l'idée de jouer, alors comme avec les pharmaciens, c'est-à-dire 2500 personnes, une pharmacie, mais pas au-delà?
Alors ça, c'est une autre fausse bonne idée. D'ailleurs, les statisticiens de l'adresse ont sorti un rapport qui montre la répartition, l'accessibilité des médecins généralistes et l'accessibilité des pharmaciens. Et les deux cartes sont absolument superposables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on régule très fort l'installation des pharmaciens, ben on obtient une répartition. Et quand on laisse la liberté aux médecins de s'installer où ils veulent, et ben on obtient exactement la même répartition. Donc la contrainte, c'est probablement pas la bonne solution. Il y a certainement d'autres choses à faire. Par contre, là où on pourra peut-être discuter, c'est est-ce qu'on est sur un niveau de mesure, une intensité de mesure qui est suffisante pour régler le problème? Et là, je suis pas sûr que les pouvoirs publics soient à la hauteur.
Isabelle Mincion, d'abord sur quelque chose d'un peu coercitif quand même, ou éventuellement échanger service contre installation. Qu'est-ce qu'on dit dans les mairies?
Alors, sur l'Association des maires de France n'a jamais pris position sur ce débat, mais on voit bien que, vu les situations dramatiques que vivent beaucoup de nos collègues, eh bien, on entend ce genre de proposition en disant est-ce qu'elle pourrait pas finalement inciter davantage. Pour l'instant, on a toujours choisi et favorisé, les collectivités l'ont fait. Il y a aussi des bourses données par les départements, hein, pour le temps des études. Tout ça, c'est une... Toutes les mesures incitatives, on va dire, ont été souvent à l'initiative à la fois des... Enfin oui, de ce que l'on a mené, à la fois avec les médecins et à la fois avec les collectivités. Et on voit bien que Madame la ministre Agnès Buzyn a repris et a facilité en fait ce qui a déjà été mis en place. Mais j'entends, moi, les mesures... Alors, la coercition, non. Imposer, enfin moi je vois pas dans ma commune que l'on m'impose un médecin qui a pas envie d'y vivre. Mais par contre, il n'y a pas effectivement maintenant de régions vraiment surdotées. Il y a des régions dotées correctement. Et il y a des régions très sous-dotées. Et donner effectivement ce que demandent maintenant certains collègues, ce serait de ne pas... inciter à aller dans les régions qui sont bien dotées, mais plutôt inciter à aller dans les régions sous-dotées.
Yannick Schmitt, avant qu'on retourne au standard, il y a une chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, effectivement, et la dureté des années de médecine, ça personne ne le nie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire aller les jeunes un peu plus régulièrement chez les médecins généralistes, en ville, en campagne, ailleurs? Parce qu'effectivement, quand on sort de la fac, finalement, on a été sur les bancs de la fac, on a été à l'hôpital, mais on n'a absolument jamais été voir ailleurs. Pourquoi ça n'existe pas, ça, dans le cursus? Comment on peut imaginer, alors peut-être que je dis une hérésie, mais une des années d'internat qui se ferait chez un médecin généraliste, à la campagne ou ailleurs, plutôt que de mettre tout le monde à l'hôpital?
Eh ben, vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on promeut effectivement. Pour vous donner un ordre d'idée qui frappera vos auditeurs, les externes, donc les étudiants entre la quatrième et la sixième année d'études, doivent faire 36 mois de stage à l'hôpital. Sur les 36 mois de stage, dans le meilleur des cas, ils vont faire un mois en dehors de l'hôpital chez un médecin généraliste. Je dis dans le meilleur des cas parce qu'il y a encore un tiers des facs qui ne proposent pas ce stage chez le médecin généraliste. C'est absolument scandaleux. Alors, pour les internes, c'est un petit peu différent. Donc, après la sixième année d'études, aujourd'hui, sur les 3 ans de l'internat, vous avez la possibilité, même l'obligation, de faire 3 semestres, hein, donc 18 mois, en ville. Ce qui est une vraie révolution, parce qu'avant, ça se faisait à l'hôpital, quasiment dans l'intégralité.
Donc, ça crée des vocations, ça, ou pas? Est-ce que ça peut créer des vocations? Quelqu'un qui n'a pas pensé à s'installer en ville ou à la campagne, qui se dit, bah, finalement, c'est pas mal.
C'est évident, on ne s'installe pas dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, si on ne présente pas ces territoires aux jeunes étudiants et aux remplaçants après, ils ne voudront pas s'y installer parce qu'ils ne connaissent pas, c'est évident. Et puis, il y a la peur du libéral. Il faut le dire, aujourd'hui, on a peur de s'installer en libéral parce qu'on connaît le confort du salariat et qu'on se dit que, bah, finalement, on va peut-être accepter un poste de salarié qui est peut-être pas trop bien payé ou moins bien payé, mais qui offre des horaires qui sont plus confortables.
Mais il y a même des communes, Isabelle Mincion, j'imagine que vous connaissez ça, qui ont même installé un salariat des médecins sur place.
Hein. Dans les centres de santé.
Par exemple.
Voilà, c'est la vocation des centres de santé. Alors moi, j'ai des exemples où ça ne marche pas, où les médecins restent un temps et puis vont ailleurs. Donc c'est pas non plus une meilleure façon de stabiliser. Moi, je voudrais dire que justement, toute la génération qui part en ce moment à la retraite, il y en a beaucoup qui ont fait leur internat dans les hôpitaux locaux et ils se sont installés. Moi, pour le Vendômois, je peux vous dire que c'est le cas. Maintenant, on a eu une politique avec l'hôpital et on a un directeur d'hôpital qui a vraiment joué le jeu, où il accueille le maximum d'internes possible et il leur fait découvrir justement ce qu'est le travail en milieu rural. Et c'est ce qui permet, là on a 2 jeunes qui se sont installés, et je pense que c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir inciter et faire découvrir quelque chose qui n'est pas connu ou que les internes ne connaissent pas. Et puis, il y a les maisons de santé universitaires qui sont en train de se créer, qui sont aussi une autre façon de pouvoir montrer un métier sous un angle différent, plutôt que d'aller voir un médecin qui est en burn-out.
Philippe nous appelle de Rennes. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute Philippe, allez-y.
Merci beaucoup. Je voudrais vous faire part de mon témoignage. Moi, j'ai été d'abord infirmier, donc j'ai fait mes études en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, et puis ensuite j'ai fait médecine, et maintenant je suis chirurgien. Et je suis installé dans une clinique privée à Rennes. Et j'ai rencontré pendant tout mon parcours des infirmières qui étaient vraiment extrêmement compétentes, d'ailleurs qui ont aidé à ma formation, notamment je pense aux urgences. Mm-hmm. Quand on est jeune, on est très content d'avoir une infirmière qui connaît bien les urgences. Et je comprends pas pourquoi les pouvoirs publics ne creusent pas plus cette piste. Parce que on devrait pouvoir déléguer vraiment du soin médical, enfin, aux infirmières.
Ce qui plairait probablement aux infirmières aussi, parce que ça fait partie des multiples revendications qui sont les leurs, Isabelle Mincion.
Oui, c'est fait. C'est fait, c'est-à-dire
c'est fait chez vous en tout cas.
C'est en train de se mettre en place. Alors il y a 10 ans, on demandait la délégation de tâches ou la délégation de compétences, qui sont deux choses différentes. Et c'est passé effectivement. Maintenant, les infirmières peuvent avoir des délégations de compétences ou délégations de tâches avec un médecin. Oui, c'est en train de se mettre en place.
Yannick Schmitt, il y a plus de freins à ce genre de choses. On a l'impression qu'il y avait des freins qui peut-être parfois venaient des médecins.
Alors,
le plus souvent venaient des médecins.
Oui. Non. Il faut
des vieux
pas...
médecins.
Je stigmatiserai pas les plus anciens, mais il y a effectivement une volonté déjà de certains médecins d'aller dans ce sens, et nous on veut y aller absolument. Il y avait un gros frein réglementaire pour pouvoir justement permettre d'avoir des infirmières qui collaborent véritablement et qui puissent assumer des compétences de médecine. Ces freins-là maintenant sont levés. On est encore en train de former les premières infirmières qui sont capables de pouvoir intervenir sur ce type de tâches. Donc ça va venir, ça vient doucement. C'est un exemple concret de ce qui marche déjà. L'orthoptiste que vous voyez chez votre ophtalmo, là on est typiquement dans de l'optimisation du temps médical. L'ophtalmo, il va vous voir peut-être 5 minutes, mais avant ça vous aurez eu un examen beaucoup plus complet par un autre professionnel de santé. Et c'est vers ça qu'on compte.
Tiens, un témoignage sur franceinter.fr. Dans notre village, notre médecin continue alors qu'il a 70 ans et qu'il aurait dû arrêter à la fin 2017. Il n'y a pas de remplaçant. La commune a mis un panneau sur le bord de la route depuis plus de 2 ans maintenant pour demander un médecin en urgence, mais finalement personne. Cet autre témoignage, c'est à vous que je le soumets, Yannick Schmitt, parce que je pense que des exemples comme ça, vous en voyez beaucoup. Je suis un jeune généraliste trentenaire franchement installé, uniquement par choix, à la campagne, dans un département du nord de la France. Jeune médecin, soit en couple ou avec des enfants, dans des villages, des petites villes françaises, parfois sans école qui ferme, sans poste, sans banque, sans métier pour le conjoint. C'est pas si simple. Et ça aussi, effectivement, c'est un argument valable, un vrai argument qu'on peut entendre, j'imagine.
Bien sûr, il faut pas oublier qu'il y a un changement sociologique quand même assez important chez les médecins de ma génération, les trentenaires. Avant, on avait peut-être des conjoints qui étaient plus dans le métier, soit de la médecine, soit carrément qui n'avaient pas de profession attitrée et qui pouvaient finir par faire le secrétariat au cabinet. Mmh. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous avez avant tout la profession de votre conjoint qui entre en ligne de compte dans les projets d'installation. Donc il faut se dire que quand on installe un jeune médecin, il faut penser également à l'emploi de son conjoint ou de sa conjointe.
Michael, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Agir pour la télémédecine et vous nous intéressez. Allez-y, on vous écoute.
Oui, effectivement, je voulais intervenir à différents niveaux. Notre association aujourd'hui est là pour fédérer les acteurs et les former, sensibiliser. C'est vrai que, notamment sur le volet formation que vous avez évoqué tout à l'heure, un sujet très très intéressant, je suis co-responsable du TIU Télémédecine à Bordeaux également. Mm-hmm. Il y a une nécessité réellement aujourd'hui de former les futurs professionnels de santé à ces nouveaux usages, mais surtout aussi d'adapter la formation et l'évolution de ces nouveaux métiers. Puisqu'aujourd'hui, je prends le cas de spécialistes qui ont une spécialité très intellectuelle, les cardiologues, les radiologues ou autres, l'impact du numérique sur leur profession est un impact réel et un risque majeur. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, on peut imaginer que demain, un radiologue ne fera quasiment plus d'interprétation. Et si les formations ou si son métier ne s'adapte pas, là, il y a un autre risque qui pourrait survenir.
Alors, quand on parle de télémédecine, Michael, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle de ce que vous dites, c'est-à-dire là on parle des médecins généralistes, spécialistes? Est-ce que ça veut dire qu'on parle aussi des généralistes? Voilà, moi qui suis enroué, je passe par mon médecin en passant par la télémédecine avec un message, il peut me prescrire quelque chose par ce biais-là. De quoi on parle exactement?
Ce que vous dites, c'est important. Aujourd'hui, la télémédecine, c'est reconnu par décret comme étant une vraie pratique médicale. Et il faut vraiment la dissocier de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire le Internet ou par téléphone, le téléconseil. Ce que vous dites, je suis enroué, j'ai un numéro ou j'ai un site Internet qui peut me mettre en relation avec un médecin, c'est du conseil médical. À aucun moment, le médecin qui sera à l'autre bout, si c'est un professionnel de santé, pourra poser un diagnostic, faire une prescription. Donc c'est bien encadré et c'est là qu'il faut faire très très attention aujourd'hui à la communication qui est auprès des professionnels de santé mais aussi aux citoyens. Voilà.
La télémédecine, merci beaucoup pour votre témoignage, Michael. La télémédecine, Yannick Schmitt, est-ce que c'est... Alors, on y va de plus en plus, on le professionnalise, on va... Il y a des choses qui vont être faites dans le... C'est dans le chantier 2018, là, en ce moment, dans la loi de financement, voilà, c'est ce que je cherchais, de la sécurité sociale. Donc, on y va, on met les choses en place. Est-ce que l'avenir et une des solutions est vraiment là?
Alors, ça va être un outil d'une pratique médicale rénovée, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit une solution pour lutter contre les déserts médicaux. Parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a la téléconsultation, ce que disait votre auditeur, c'est-à-dire une consultation à distance, tout simplement. Ça, en tant que médecin généraliste, j'ai quand même du mal à me dire que j'aurais envie d'avoir des téléconsultations toute la journée et de plus avoir le contact physique que je peux avoir avec mes patients. Donc, dans certaines zones très reculées, ça peut être intéressant.
Vous décidez qu'on y consacre une heure dans la journée
alors,
pour un médecin.
Ça peut être intéressant quand ça évite un déplacement, par exemple une urgence en maison de retraite, au lieu de devoir se déplacer, si on a une infirmière avec un chariot de télémédecine sur place, effectivement on peut faire de la médecine de bonne qualité. Par contre, ce qui va vraiment révolutionner la pratique du médecin généraliste, ça va être la télé-expertise. Et ça, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir recours au médecin spécialiste, un spécialiste d'organes, au cardiologue, au pneumologue, en présence du patient, mais sans que ce dernier ait besoin de se déplacer. Et là, on arrive dans un dialogue à trois, où effectivement, on peut prendre en charge des situations complexes ou qu'on pouvait pas prendre en charge actuellement de manière efficace. On envoyait un courrier, on savait pas trop ce que le spécialiste en retenait, et on recevait une réponse qui, une fois sur deux, nous convenait pas. Donc, on n'avait plus d'autre choix que de rappeler le spécialiste derrière. Ça, c'est le vrai apport de la télémédecine. La téléconsultation, pas sûr que ça serve.
Est-ce qu'on regarde ça avec intérêt, Isabelle Mincion, du côté des villes ou pas?
Oui, tout à fait. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que la santé, c'est d'abord et avant tout une compétence de l'État, et que dans ces cas-là, lorsque dans une MSP, on souhaite installer la télémédecine, eh bien généralement, c'est encore à charge des collectivités, et que pour essayer d'aider et donner cet outil supplémentaire, parce que c'est qu'un outil, effectivement, ce que dit Yannick, ce ne sera jamais la panacée, c'est tout l'assemblage de la boîte à outils qui va permettre de passer ces 10 années à venir. Mais oui, bien sûr, mais les collectivités, s'y penchent et commencent à les financer largement.
Quelques messages sur franceinter.fr et notamment celui-ci. Effectivement, il ne faut pas oublier, il n'y a pas qu'en ruralité que l'on manque de médecins. Dans le 93 également, c'est une urgence en médecine générale et notamment en gynécologie. C'est Isabelle qui nous le dit. Et c'est vrai, ne pas oublier ces zones qui sont en manque de médecins également. Avant de parler de mesures coercitives, nous dit également cet auditeur, ne faudrait-il pas prendre également en compte le fait que les internes font aujourd'hui fonctionner les hôpitaux pour un salaire dérisoire, et cela pendant 4 ans. Et effectivement, on fait rentrer les internes dans les effectifs des hôpitaux, j'imagine, Yannick Schmitt, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui?
Évidemment, c'est eux qui sont présents au lit du malade tous les jours, et c'est pas les praticiens qui viennent une fois de temps en temps faire la visite. Ça, tout le monde le sait et tout le monde le voit à l'hôpital.
Je suis étonnée, nous dit Marie, qui est épouse de médecin, que le prix de la consultation, 25 euros, donc dérisoire, ne soit pas évoqué. Disons les choses clairement, Yannick Schmitt, quand on est jeune médecin, qu'on s'installe quelque part en milieu rural, la consultation coûte 25 euros. Est-ce que c'est rentable pour un jeune médecin? Est-ce qu'on gagne sa vie quand on est jeune médecin et qu'on s'installe quelque part dans un milieu rural?
Oui, sans hésiter. Je crois que la question de la rémunération, c'est un faux problème. Dans les études universitaires qu'il y a pu y avoir, on montre bien qu'effectivement, la carotte financière, c'est au mieux un effet d'aubaine. Et dans le plus mauvais cas, effectivement, ça attire les mercenaires. Donc, c'est intéressant qu'il y ait des incitations financières, mais ça fait pas l'essentiel. La première question qu'un jeune médecin se pose quand il va s'installer, c'est avec qui je vais travailler, comment je vais travailler et qu'est-ce que va faire mon conjoint.
Vous êtes où, Yannick Schmitt? Vous êtes installé où?
Alors, moi, je suis en banlieue de Strasbourg. Dans une zone très urbaine, et effectivement je suis tout à fait sensible à la désertification urbaine, puisque moi j'ai remplacé 3 médecins qui sont partis à la retraite l'année avant mon installation.
Et vous gagnez votre vie, dès votre installation, vous gagnez votre vie.
Tout à fait.
Delphine nous appelle de Eure-et-Loir, vous serez la dernière ce soir, Delphine, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Alors moi je suis pressée parce que je vais à ma garde, à Dreux, je fais des gardes aussi pour gagner un peu mieux ma vie. Ce que je voulais dire, c'est que je forme 4 internes par an, et je suis ravie, et c'est vrai que j'essaie de vraiment leur donner envie de s'installer comme médecin généraliste, parce que c'est extra ce métier, mais elles ont beaucoup de réticences et beaucoup de défis déjà. Elles veulent pas trop travailler et elles ont peur de ce cabinet, gérer la comptabilité, etc. C'est vrai que c'est stressant pour un médecin aussi. Et l'autre problème, je pense, auquel on devrait penser, c'est aller dans les petites villes, chercher les gens qui veulent être généralistes et leur permettre de réussir médecine avec des points, je ne sais pas, par leur motivation. Parce que sinon, qui passent le concours et qui se retrouvent à Lille et qu'après ils se retrouvent à Rennes pour faire leur internat, et ben ils vont rencontrer quelqu'un de Rennes et ils vont aller vivre à Rennes alors qu'au départ ils habitaient en Creuse. Donc il y a quelque chose de complètement illogique aussi dans la sélection des médecins.
Allez,
plein d'autres choses à dire, mais je vais pas vous embêter.
Mais non, mais vous nous embêtez pas et courez à votre garde parce qu'on voudrait surtout pas vous mettre en retard. Merci beaucoup Delphine pour votre appel. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Delphine, effectivement, c'est motivation et formation. Ce sont les deux mots que je retiens dans ce qu'elle vient de nous dire, Isabelle Mincion.
Oui, encore une fois, on revient sur la formation et sur la connaissance du métier. Et on sait bien que toute la partie administrative, parce que c'est quand même quelque chose qui a augmenté au fil du temps, c'est quelque chose qui rebute. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il n'y a pas que les MSP, hein, on pourrait parler MSP. En Loir-et-Cher des maisons de santé pluridisciplinaires, on pourrait parler des services comme PAIS, où ce sont des médecins sur de différents lieux qui se regroupent, justement pour pouvoir avoir une diminution de leur temps administratif qui soit partagé, avec là aussi des financements publics pour le faire. Voilà, on voit bien que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir envisager d'alléger pour que les médecins puissent se consacrer à ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent faire, ce pour quoi ils sont formés, c'est-à-dire exercer la médecine.
Typiquement, Yannick Schmitt, vous, est-ce que ça fait partie des freins, effectivement, des choses qui sont compliquées, parce qu'il n'y a pas que les patients, il y a toute la gestion aussi qui va derrière.
Il faut savoir s'organiser pour que justement ce temps médical soit pas mangé par du temps administratif ou d'autres problématiques. Donc effectivement, moi je voudrais terminer sur une note positive. On va diminuer le nombre de médecins en France, c'est évident. Par contre, il faut qu'on trouve de nouvelles modalités d'organisation pour que on puisse sacraliser ce temps médical et puis justement rendre service aux patients au maximum. Et on peut y arriver.
Allez, bah ce sera sur cette note positive qu'on terminera. Merci beaucoup d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous qui avaient beaucoup appelé ce soir, encore une fois. Le 18-20 sur France Inter, c'est Amélie Stadenman, c'est Nathalie Poitvin, c'est Fabrice Lagle, c'est Marie-Claude Pinson. Merci beaucoup.